si vous ne vous convertissez pas et que vous ne deveniez pas comme un petit enfant, vous n'entrerez jamais dans le royaume de Dieu. Aujourd'hui, c'est un autre aspect de l'enfance que je veux en parler, c'est que être comme des enfants, cette fois-ci, non plus pour le salut, ça c'était dimanche dernier, mais être comme des enfants pour l'obéissance. Je veux parler de cela aujourd'hui, être comme des enfants pour l'obéissance. Un verset, je pense que vous le connaissez, dans 1 Pierre chapitre 1, verset 14. Vous pouvez le chercher, ce verset. C'est le pivot de tout ce qui va être développé par la suite. Quand Pierre rappelle à ses chrétiens, ses auditeurs, il disait « Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. » Quand vous étiez dans l'ignorance. Dimanche dernier, nous avons parlé qu'il faut devenir une autre personne semblable à un petit enfant pour être admis dans le royaume de Dieu. En d'autres termes, être sauvé. Et nous avons vu que ce n'est pas possible. Nous sommes des adultes. Comment je peux devenir comme un petit enfant? C'est la question de Nicodème. Mais il faut passer par cette métamorphose, avons-nous dit, cette opération que Dieu fait en nous, pour nous, par la régénération, la nouvelle naissance. Et par la nouvelle naissance, nous devenons enfants de Dieu. C'est ce que nous avons dit la dernière fois. Oui, bien que ce matin, je vous ai dit, c'est l'obéissance qui nous préoccupe. Je ne peut pas m'empêcher quand même de dire qu'être un enfant de Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège. Je vous rappelle tout simplement certains faits de ce privilège pour que nous puissions nous émerveiller de ce que nous sommes devenus en Christ par ce que Dieu a fait en nous à travers cette nouvelle, à travers la régénération. L'expression enfant de Dieu, il faut le savoir, souligne cette intimité de notre relation avec Dieu. Romains 8, 15, 16, voyez. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père, Papa, mon Père ». Et l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Vous voyez, des témoins extérieurs à nous, mais qui est en nous l'Esprit qui dit « Tu es enfant de Dieu, tu peux appeler le Père Céleste, ton Papa, Abba Père. » Oh, c'est magnifique. Nous ne pouvons jamais cesser d'être les enfants de Dieu ou être exclus du cercle de sa famille. Ça, il faut le savoir. Il est possible, c'est vrai, qu'un enfant puisse désobéir à son père. Mais il faut savoir que la désobéissance va attrister le cœur de notre Père Céleste et attrister le Saint-Esprit qui est en nous. Et cela nous fait perdre de la joie du Saint-Esprit. Mais il faut savoir, oui, on peut perdre la joie, on attriste le Père et le Saint-Esprit en nous, mais cela ne change en rien et jamais notre position comme enfant dans sa famille. Oh, c'est merveilleux. La confession, l'abandon de notre péché assure la restauration de notre joie et le pardon paternel. Autre chose qu'il faut souligner, c'est que cette relation avec Dieu comme notre Père, c'est la part de tous les croyants, les nouveau-nés comme les matures. Ça, c'est important, la parole de Dieu en parle. Et dans cette relation, nous pouvons lui parler directement dans l'intimité comme ses enfants, et cela en tout temps. Jean 15, verset 16. Et pour terminer ce grand privilège, la jouissance de cette intimité est expérimentée par la prière et la lecture de la parole de Dieu. Nous pouvons lui parler de tous nos besoins, petits et grands, et nous pouvons faire totale confiance dans ce qu'il a promis dans sa parole. Parce que la Bible parle que notre Père prend soin de nous pour ceux qui sont ses enfants. Et ce matin, je reviens donc à notre verset qui parle de ce grand responsabilité. Je viens de parler, être enfant de Dieu, c'est un privilège. Mais être enfant de Dieu implique une responsabilité. Regardez bien le verset. Comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas, ainsi de suite. Donc, ça implique une responsabilité. Donc, regardons maintenant ce que cela signifie. Donc, on ne traite plus ici de notre privilège, mais de notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Et l'une de ces responsabilités, d'après ce que je lis là, c'est l'obéissance et la soumission à notre Père céleste. Donc, Pierre, quand il s'adresse à ses croyants, ses auditeurs, leur fait rappeler, ils sont enfants de Dieu. Mais maintenant, ce statut, cette position, il faut que ça se traduise dans leur conduite, leur vie de tous les jours. Vous voyez, ce qu'ils sont devenus, enfants de Dieu, maintenant doit se traduire dans les quotidiens par leur manière de vivre. C'est ce qu'il dit ici. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous avez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Donc, Pierre est en train de dire, maintenant il faut traduire cette transformation que Dieu a opérée en vous par le Saint-Esprit dans les faits. C'est-à-dire que cette transformation intérieure que nous avons parlé dimanche doit être visible à l'extérieur dans les conduites de tous les jours. C'est ce que parle ce passage. Pour dire qu'un changement s'est passé et opéré dans leur vie, regardez, est-ce que vous avez remarqué, vous avez autrefois, la vie d'un chrétien, c'est toujours comme un livre où il y a deux volumes, avant de connaître Christ et après, maintenant qu'on connaît Christ. Et c'est un peu de cela dont on parle ici. Pierre leur fait rappeler comment ils fonctionnaient, comment était leur mentalité, comment ils se dirigeaient, comment ils vivaient dans le passé. Regardez le mot ici qui est dit « quand vous étiez dans l'ignorance ». Autrefois, ils étaient ignorants de quoi ? Ils étaient ignorants des choses qui concernent les affaires de Dieu. Ils étaient ignorants qu'ils étaient des pécheurs, besoin d'être sauvés. Ils étaient ignorants de qu'est-ce qui fait plaisir, qui fait délice, les délices de Dieu. Ils ignoraient. Parce que autrefois, dans le passé, ils avaient des vies dictées par leur convoitise. Vous voyez, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Leur vie était dictée par les convoitises, hein, c'est-à-dire des désirs coupables aux yeux de Dieu et dans lesquels ils se sont vautrés. Et ils n'avaient pas le choix que de répondre à leur passion, hein, ce qui dicte leur désir. J'aimerais vous lire, regardez 1 Pierre chapitre 4, versets 2 et 3, que Pierre leur rappelle ce qu'ils étaient avant autrefois et maintenant ce qu'ils devraient être en étant devenus un enfant de Dieu. Regardez 1 Pierre chapitre 4, versets 2 et 3. Regardez. Afin de vivre, celui qui a souffert dans la chair, je reprends la partie du verset 1, en a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu. Vous voyez les convoitises autrefois, mais maintenant on vit sur un autre plan, sur un autre principe, la volonté de Dieu. Pendant le temps qu'il lui reste à vivre dans la chair, ça veut dire dans ce corps. C'est assez en effet d'avoir dans le passé accompli la volonté des païens en marchant dans la dissolution. Les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger, du boire et des idolâtries criminelles. Ça, c'était leur vie passée. Et maintenant, ils sont devenus une nouvelle créature, enfants de Dieu, et ils deviennent maintenant responsables. Ils ne devraient plus vivre comme cela, mais vivre maintenant selon ceux qui font les délices de leur Père céleste. Ce qui est de la volonté du Père céleste. Et ça doit ne pas nous laisser indifférents en tant qu'enfants de Dieu. La question qui peut être posée, ce n'est pas dit dans ce verset, donc pour pouvoir traiter le sujet à peu près comme il faut se poser quand même la question, mais pourquoi obéir à Dieu? Peut-être que vous vous posez cette question, mais pourquoi obéir à Dieu? Le verset que nous venons de lire nous donne une réponse, un élément de réponse. C'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Deuxième chose, l'obéissance, c'est, je dirais, c'est comme un trait qui marque ceux qui sont enfants de Dieu. C'est comme un badge, si vous voulez, avec lequel on va reconnaître ceux qui sont enfants de Dieu par leur obéissance. Prenez votre Bible dans 1 Jean chapitre 3, verset 9 et verset 10 pour justifier cela. Donc, première raison, c'est de notre responsabilité. Deuxième raison, c'est que l'obéissance est un trait qui marque ceux qui ont Dieu pour leur Père. Et nous lisons 1 Jean 3, verset 9 et 10. Quiconque est né de Dieu, vous voyez, ça c'est ce qu'on avait parlé la dernière fois, la nouvelle naissance, devenir enfant de Dieu. Ce quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché, hein, parce que la semence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher. Ah bon? Parce qu'il est né de Dieu. C'est par là que se font reconnaître les enfants de Dieu et les enfants du diable. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, non plus que ceux qui n'aiment pas son frère. Juste une petite précision. Quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Est-ce que ça veut dire que je ne pêche plus une fois que je suis devenu enfant de Dieu? Loin de là. Jean lui-même parle de cela en verset 10 du chapitre 1. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous faisons de Dieu menteur et sa parole n'est point en nous. Donc, ce n'est pas ça ce qu'il voulait dire ici. Il dit ici, ce qui est né de Dieu, ceux qui sont passés par la nouvelle naissance, ne peut plus continuer à vivre ou demeurer dans le péché. Voilà ce qu'il voulait dire. Ceux qui sont nés de Dieu ne peuvent plus continuer à vivre ou à demeurer dans le péché. 2 Corinthiens 5, 17, ils sont devenus une nouvelle créature. Toutes choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Et quelque chose qui doit frapper l'attention, c'est qu'il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ne peut pas pécher, ce n'est pas l'impossibilité. Écoutez-moi bien, ce n'est pas l'impossibilité, mais c'est l'incompatibilité. Je m'explique. Ici, quand il dit « ne peut pas pécher parce qu'il est né de Dieu », ce n'est pas l'impossibilité de pécher, mais l'incompatibilité dans la vie d'un enfant de Dieu, la vie de péché. Est-ce que vous me suivez? Ça, c'est très important. Ça, c'est ce qui marque les enfants de Dieu des enfants du diable. Comme dit l'expression, tel père, tel fils, on ressemble à son père dans ses traits de caractère. Et parfois, il y a des choses qui ne vaut pas la peine d'être imité de son père. Mais le Père céleste, on doit l'imiter. Donc, ici, ne peut pécher ne souligne pas l'impossibilité, mais l'incompatibilité de celui qui est enfant de Dieu et vivre dans le péché. Vous voyez, c'est ça. Donc, ça veut dire tout simplement que ça ne peut pas coller. Vous dites enfant de Dieu, vous êtes enfant de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça ne peut pas coller si vous vivez encore dans le péché. C'est ça l'incompatibilité du péché et de la vie d'un enfant de Dieu. Le péché dans la vie d'un enfant de Dieu. Parce que ceux qui continuent à demeurer dans le péché démontrent par là qu'il ne l'est jamais devenu enfant de Dieu. Parce que ce n'est pas possible de se déclarer l'être et continuer à vivre comme si de rien n'était. Donc c'est très important. Troisième raison, mais pourquoi obéir à Dieu? Une raison que je vois dans la parole de Dieu, parce que nous ne voulons pas déplaire à Dieu. Juste une illustration. Quand Pierre et Jean étaient arrêtés parce qu'ils proclamaient le Seigneur, Jésus, et on les a empêchés, l'autorité religieuse les a empêchés de ne plus prêcher au nom de Jésus. Dans Actes chapitre 4, verset 19 et 20, face à cette intimidation et à cette opposition, Pierre et Jean leur répondirent, jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Mais par ailleurs, mais là, qu'est-ce que cela dit? Parce que je sais par ailleurs, mais toute autorité qui est en place s'est instituée par Dieu. Et je ne comprends plus la réaction de Pierre et Jean ici. Oui, Romains 13, verset 1 et 2, toute autorité a été instituée par Dieu. Mais si cette autorité commence à confisquer ce qui est dû à Dieu, la réaction, c'est de ne plus l'obéir. C'est ce qu'a fait Pierre et Jean. Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. La réponse est dans la phrase. C'est pas possible, nous n'allons pas vous obéir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Je répète, toute autorité est instituée par Dieu et nous devrions nous soumettre. Mais quand l'autorité commence à demander ce qui est de Dieu, nous ne devrions plus l'obéir. Encore plus tard, les apôtres, dans Actes 5, 28, lors de la persécution, étaient défendus aussi de prêcher le nom de Jésus. Et devant le tribunal des Juifs, hein, à l'époque, les Sanhédrins, on les a convoqués et ils ont leur dit, Actes 5, 28, « Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là ? Et voici, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement et vous voulez faire retomber sous nous le sang de cet homme. » Verset 29, Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » L'histoire, vous pouvez le vérifier, dit qu'après la mort de l'apôtre Paul, l'Empire romain, en place à l'époque, avait promulgué une loi qui oblige tous les sujets de l'Empire à adorer l'empereur comme Dieu. Et les chrétiens qui refusent d'adorer l'empereur sont emprisonnés et même condamnés à mort. Si vous visitez Rome, il y a encore le Colisée, n'est-ce pas ? Cet amphithéâtre qui, par lequel, c'est des vestiges hein, romains qui est toujours là, des traces, qui montraient qu'à cet endroit, l'empereur avait l'habitude de venir pour se distraire. Et ils aiment bien se distraire, parfois à des spectacles où des chrétiens sont mis à mort et dévorés par des lions affamés. Et ils sont contents de les voir. C'est un spectacle. Vous savez, frères et sœurs, obéir à Dieu coûte un prix. Mais quel prix vous voulez mettre ? Quel prix vous voulez mettre ? Réfléchissez à cela. Ces gens-là étaient fermes dans leur conviction à dire « Nous ne voulons pas vous obéir, nous obéissons à Dieu. » Et c'est juste ce qui est raisonnable et convenable pour les enfants de Dieu. Donc, quel prix je veux mettre à l'obéissance, à mon obéissance ? Jusqu'où je suis prête à payer de ma vie, de mes conforts, de plusieurs choses. Quatrième raison, pourquoi obéir à Dieu ? Parce que je vois dans la parole de Dieu, le Seigneur Jésus est l'exemple suprême de l'obéissance. Tournez votre Bible dans Hébreux 5, verset 8. Jésus est l'exemple suprême de l'obéissance et nous devrions l'imiter. Hébreux 5, 8 nous dit ceci, « Il a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. » Je veux relire. Il a appris, en parlant de notre Seigneur, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Un peu technique, mais important de le souligner. Le mot « fils » ici, c'est pas comme on dit, c'est mon fiston. Tous les fistons dans la famille apprennent là et obéissent à leurs parents, n'est-ce pas ? Mais c'est pas de cela que dit ce verset. Tous les fils ordinaires, en tant qu'enfants, apprennent l'obéissance aux parents. Mais ce qui est fort ici, il faut que vous compreniez cela, l'accent mis par l'auteur ici, c'est sur la qualité de fils de Dieu. Ce fils est le fils de Dieu, il est le Dieu véritable. C'est ça le sens ici. Donc ce n'est pas comme mon fiston, mais le fils en tant que Dieu, le Dieu véritable. Et quand vous avez compris ça, dans cette position en tant que Dieu, il a appris l'obéissance par l'expérience. Il a appris l'obéissance par expérience. Par exemple, en parlant des tentations, vous savez, la deuxième personne de la Trinité, Dieu le Fils, connaissait avant de venir sur terre ce que c'est les tentations. Parce qu'il est omniscient, il sait toutes choses. Mais par expérience, pour la première fois dans sa vie terrestre, il va affronter et expérimenter ce que c'est les tentations. Regardez Matthieu chapitre 4, par expérience. Donc, Jésus connaissait l'obéissance, mais il l'a appris par expérience pendant son incarnation ici-bas sur terre. Et vous le savez, à Gethsémané, il a manifesté cette obéissance en passant par cette épreuve dans le jardin de Gethsémané, avant l'heure horrible de la croix, il dit, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il est l'exemple suprême de l'obéissance. Il connaît l'obéissance en tant que Dieu, mais il l'a vécu par expérience durant sa vie terrestre. Oui, chers frères et sœurs, j'ai évoqué quelques motifs, parmi tant d'autres, le temps nous passe pour en parler de cela. Pourquoi obéir à Dieu donc? Retenez, c'est notre responsabilité en tant qu'enfant de Dieu. Oui, c'est un privilège d'être enfant de Dieu, mais ça implique une responsabilité. Deuxième chose, par nos obéissances, nous sommes comme une badge, j'ai dit, cette obéissance, les traits qui caractérisent ceux qui ont Dieu pour Père. Voyez. Et troisième motif, ceux qui sont enfants de Dieu doivent obéir à Dieu parce que nous ne voulons plus comme autrefois, maintenant nous voulons chercher à ne plus déplaire à notre Père Céleste. Parce que nous le craignons. Non pas parce qu'il va nous donner faire du mal, nous le craignons de lui faire du mal, dans le sens de encore continuer dans le péché. C'est la révérence envers notre Dieu. Et dernière raison, nous devrions obéir à Dieu parce que Christ lui-même a ouvert la voie par sa propre expérience de ce que c'est l'obéissance. Pourquoi obéir? La question dont on se pose aussi, mais si je refuse d'obéir, qu'est-ce qui peut arriver? N'est-ce pas? Le refus d'obéir, d'après la Bible, va arrêter notre croissance spirituelle. Et la désobéissance va entraîner le châtiment de notre Père Céleste dans notre vie. Je répète, la désobéissance va arrêter notre croissance spirituelle et va attirer le châtiment de notre Père Céleste dans notre vie. Hébreux 12, 6, si vous voulez bien regarder, Hébreux 12, 6. Car le Seigneur châtie, voilà le mot, châtier, celui qu'il aime, et il frappe de la verge tout ce qu'il reconnaît pour ses fils. Et vous savez que ce passage, c'est une citation plusieurs siècles avant du proverbe que Salomon avait écrit, 3, versets 11 à 12. « Mon fils, ne méprise pas la correction de l'Éternel et ne t'effraie point de ses châtiments, car l'Éternel, voilà, Hébreux cite, l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. » Le mot « châtier » ici, je vous fais faire rappeler le mot pour enfant, petit enfant que nous avons vu dimanche dernier, paideo. Et donc, le sens ici, ça inclut l'éducation des enfants, ça inclut la discipline, ça inclut la correction. Si vous voulez, dans ce mot, est inclus tout ce qui cultive l'âme pour le corriger des erreurs et pour limiter les effets des passions et des convoitises dans notre cœur. Je me rappelle toujours le pasteur Bixby, ici, ce pupitre, qui disait, le mot châtier, c'est que, comme on conduit une voiture, on prend le volant, si vous lâchez le volant quelques instants, hop, il va partir dans une direction. Je châtie mon volant, je le remets à la place dans la bonne direction. C'est exactement le sens du mot ici. Au lieu que la voiture va sur le trottoir, ou le talus, eh bien, vous devrez être sans cesse châtier le volant pour que vous soyez dans la bonne voie. C'est ça le sens du mot. Ici. Il est important de préciser que le châtiment ou la correction ou la discipline de notre Père Céleste n'est pas toujours administrée dans les mêmes buts. Il faut le savoir, ça. Parfois, le châtiment est administré quand nous avons péché. On ne va pas le regarder. L'exemple du roi David quand il a commis l'adultère avec Bathsheba. Le châtiment, Dieu nous l'administre quand nous avons péché. Le châtiment est administré par Dieu en signe de prévention afin de nous préserver de tomber dans le péché. Ça aussi, il faut tenir compte. Le châtiment comme une prévention pour nous préserver de tomber dans le péché. Exemple, l'apôtre Paul, pour éviter de l'enorgueillir de cette révélation qu'il a reçue de Dieu, et il lui a été affligé par Satan, les échardes dans la chair. Dieu administre son châtiment comme un moyen d'éducation, afin de nous enseigner des leçons et nous former, forger notre caractère. Vous voyez les trois buts que la parole de Dieu enseigne, ce que Dieu vise quand il châtie ses enfants. En signe de quand nous péchons, prévention pour nous éviter de faire tomber dans le péché, et moyen d'éducation pour nous corriger et pour enseigner de leçons dans notre propre vie. Exemple, Job. On ne va pas revenir sur son histoire, mais nous le connaissons tous. Donc, chers frères et sœurs, ce matin, soyons exercés à nous soumettre à la discipline de notre Père Céleste, laquelle aura pour fruit de nous transformer jour après jour, de gloire en gloire, à la ressemblance de notre Père Céleste. Tel Père, tel Fils, et Dieu est en train de faire cela dans chacun de nos vies pour que nous lui ressemblions dans nos traits de caractère. Je vais terminer ce message par un exemple que la Bible donne parmi tant d'autres pour illustrer la conséquence néfaste et désastreuse de la désobéissance, pour nous interpeller. Tournez votre Bible et je veux rester 2-3 minutes dans 1 Samuel chapitre 15. Tournez votre Bible. Pour terminer, je vais prendre ce passage pour nous illustrer la conséquence néfaste de la désobéissance. Hein? 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Et laissez votre Bible ouverte parce que je veux revenir pour vous décrire le contexte. 1 Samuel chapitre 15, verset 22. Samuel dit, verset 22, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Je veux le relire. Samuel dit, « L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel ? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices, et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. » Quel est le contexte de ce passage ? Peut-être certains ne le connaissent pas. Longtemps, des siècles auparavant, avant le règne de roi Saül, au moment de la sortie de l'Égypte, le peuple israélite allait dans le désert, en route vers Canaan. Et dans le désert, ils avaient reçu l'attaque des Amalécites. Et cet acte que a fait ce peuple envers les peuples israélites, Dieu veut le venger dans l'avenir. Vous tenez bien, de cette maltraitance que les peuples Amalécites avaient fait au peuple israélite quand ils traversaient le désert, Dieu disait, cet acte ne laisse pas, je ne veux pas le laisser impuni. Il doit être vengé. Vérifiez chez vous Deutéronome, chapitre 25, versets 17 à 19. Je ne veux pas le lire, mais c'est écrit. Maintenant, le temps est venu, plusieurs siècles plus tard, le temps est venu maintenant que Dieu traite cette question des problèmes avec les Amalécites lors de la sortie de l'Égypte. Et il ordonne maintenant Samuel d'aller voir le roi Saül, d'exterminer les Amalécites. vous verrez votre Bible, regardez maintenant chapitre 15, verset 1 et 3. Regardez l'ordre que Samuel dit au roi Saül. Verset 1 à 3. Samuel dit à Saül, « C'est moi que l'Éternel a envoyé pour poindre un roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. Ainsi parle l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. » Face à cette annonce, le roi Saül a une responsabilité d'obéir et de faire ce que le prophète lui a dit. Nous lisons, regardez versets 7 à 9 de votre passage. Qu'est-ce que le roi Saül a fait en réponse à ce que lui dit le prophète Samuel? Versets 7 à 9. Saül bâtit Amalek, puis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévouait par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais, attention, le Saint-Esprit insiste maintenant dans l'Écriture parce qu'il y a quelque chose que nous devrions retenir ici. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag. Pourtant, il devrait faire mourir hommes et femmes sans exception. N'est-ce pas, verset 3? Et il est dit, Saül épargne, et le peuple épargnait Agag, et les meilleurs brebis, les meilleurs bœufs, les meilleures bêtes de la seconde portée des agneaux gras, et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas le dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui était méprisable et chétif. À votre avis, est-ce que le roi Saül a obéi? Il a obéi à moitié. Il a commencé, mais il s'est arrêté. Vous savez, chers frères et sœurs, obéir à moitié égale désobéir. Regardons sa désobéissance. Saül, tellement orgueilleux, peut-être pensait à ramener toutes ces choses et faire la parade devant tout le peuple des butins qu'il gagnait. Et cette intention, le verset 12, nous éclaire sur peut-être cette intention du cœur. Il n'est pas dit dans le passage, mais je le suppose. Mais le verset 12 confirme qu'il était orgueilleux et peut-être tout cela, non pas seulement pour un gain, mais pour faire voilà le roi Saül, il a gagné la bataille avec les Amalécites. Regardez verset 12, il est dit ceci, « Il se leva de bon matin pour aller au devant de Saül, on parle donc de Samuel, on vint lui dire, « Saül est allé à Carmel, et voici, il s'est érigé un monument. » Je répète, Saül s'est érigé un monument. Puis il s'en est retourné, et passant plus loin, il est descendu à Gilgal. Question, pourquoi il s'érige un monument en son honneur? N'est-ce pas? C'est de l'orgueil. Regardez sans tarder la réponse de Dieu par le prophète. Verset 14. Samuel dit, « Qu'est-ce donc ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles et ce mugissement de bœuf que j'entends ?» Et qu'est-ce que répond le roi Saül, versets 20 et 21 ? Saül répond à Samuel, « J'ai bien écouté. » Ah, c'est formidable. Obéir, je profite de le dire, égale écouter. C'est aussi simple. Obéir, c'est écouter. Bien écouter la voix de l'Éternel, et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, mais c'est pas ma faute, hein. Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse. Ah, c'est une bonne motivation. De ce qui devait être dévoué afin de les sacrifier à l'Éternel, ton Dieu, à Gilgal. Saül tente de justifier sa désobéissance en affirmant que le peuple avait insisté d'apporter les animaux afin de les sacrifier à l'Éternel, n'est-ce pas? Mais qu'est-ce qu'étaient les consignes de Samuel de la part de l'Éternel, le verset 3, je vous le rappelle, hein, va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient. Tu ne l'épargneras point et tu feras mourir hommes et femmes, enfants et nourrissons, bœufs et brebis, chameaux et ânes. Et nous y sommes dans le verset 22 que je vous ai lu tout au début. Il y a un principe ici. C'est un principe qui est valable de tout temps. Quel est ce principe? C'est que jamais un système sacrificiel ici n'a été destiné à remplacer une vie d'obéissance. Au contraire, il doit plutôt être l'expression de l'obéissance. C'est John MacArthur qui le disait, ça me frappait. Mais à nos propres mots, ça veut dire quoi? Saül croyait de pouvoir compenser par des sacrifices sa désobéissance. C'est ça ce que ça veut dire. Il va pouvoir compenser, oui, ce que j'ai fait le peuple, hein, mais et pas moi, hein, mais les sacrifices peut-être vont calmer Dieu de sa colère et mon désobéissance, il ne va pas le voir. Non, 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 il s'est trompé. Mais vous savez, ne jetons pas la pierre sur Saül. Nous aussi, notre cœur est tortueux par-dessous tout. Qui peut le connaître? Dans la semaine, nous faisons des actes illicites, horribles, qui nous font honte. Et qu'est-ce qu'on fait? Nos pensées nous culpabilisent. Tu aurais dû pas le faire. Et pour apaiser la conscience, qu'est-ce qu'on fait? Je vais aller au culte aujourd'hui. Ah, les sacrifices peuvent peut-être apaiser la colère de Dieu. Pourtant, on a désobéi flagramment. Peut-être ceux qui prennent la Sainte-Seine. Oui, je viens. C'est le premier jour de la semaine dans cette assemblée. Je viens prendre la Sainte-Seine. Ah, peut-être dans ce cas-là, Dieu va effacer tout ce que j'avais fait, commis comme des bêtises de cette semaine. C'est cette mentalité. Dieu a une horreur de cette mentalité. C'est ce qu'enseigne ce passage. Et vous savez quelle est la conséquence de la désobéissance de Saül ici? C'est la perte de la royauté. Je vous lis le verset 23. Car la désobéissance est aussi coupable que la divination, et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les théraphimes. Écoutez bien, puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Chers frères et sœurs, ne nous amusons pas à désobéir le Seigneur. La désobéissance a des conséquences très graves. La Bible dit par ailleurs, ce que l'on sème, on va le récolter. Et ce principe aussi est appliqué pour la désobéissance et aussi l'obéissance. Il a perdu la royauté et ça nous donne une leçon qu'on ne s'amuse pas, on ne se moque pas de Dieu. Demandez pardon si c'était telle attitude qui vous motive aujourd'hui de venir dans sa présence pour effacer cette culpabilité dans votre conscience. Venez à Dieu et confessez-lui vos péchés. Si vous êtes enfant de Dieu, il va pardonner. Il va purifier votre vie de toute iniquité. Tout ce qui vous incite à faire des actes contraires à la loi de Dieu. Ça, c'est l'iniquité. Et ceux qui ne sont pas encore au Seigneur, je vous plaide pour vous. Venez à lui et devenez comme un petit enfant. Faire demi-tour. On avait parlé dimanche dernier. Et devenir comme un petit enfant pour que vous naissiez de nouveau. C'est un acte miraculeux du ciel. C'est une intervention de Dieu dans le cœur. Mais vous ne pouvez pas le faire, à moins qu'il vous fait par sa grâce. Décidez de votre vie. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il va le récolter. Je vais terminer, chers frères et sœurs. C'est le désir de mon cœur. C'était ce désir de l'apôtre Paul pour les Philippiens. Regardez Philippiens chapitre 2, versets 12 et 15. Je m'arrête là. C'est le désir de mon cœur aujourd'hui aussi de désirer que ce qu'il avait en vue comme projet que Dieu accomplisse dans la vie de cette église soit la même chose que Dieu puisse opérer dans l'église de Pessac aujourd'hui vis-à-vis de l'obéissance. Philippiens 2, il y a des choses que je veux sauter, mais vous avez sous vos yeux du 12 à 15. Ainsi, Mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi. Ils n'étaient pas comme Saül qui a obéi à moitié. Ils avaient toujours obéi. Mais quel exemple! Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Verset 15, afin que vous soyez des enfants de Dieu. Mais, là, je croyais qu'en devenant comme un petit enfant, quand le demi-tour a été fait dans ma vie, et j'accepte que Dieu intervienne dans ma vie pour que je naisse de nouveau, je suis enfant de Dieu. Oui, vous êtes enfant de Dieu, mais enfant de Dieu irrépréhensible, inattaquable à tout point de vue, dans n'importe quel domaine. C'est ça ce qu'il enseigne ici. Afin que vous soyez des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. C'est mon désir, c'est la volonté de Dieu, et c'est ce qui lui fait des délices de ce que nous soyons comme ces chrétiens, toujours obéissants. Oui, ça peut nous coûter, mais ça vaut la peine. Au lieu que ça nous coûte des difficultés, des désastres dans notre vie en désobéissant, je vous conseille, je plaide pour vous d'obéir à Dieu. Prions le Seigneur. Seigneur, ce matin, nous sommes présents ici. C'est vrai, ta parole est pleine d'enseignements, pleine de vérité. Chaque besoin du cœur, je suis persuadé, l'Esprit de Dieu a fait ce qui était nécessaire aujourd'hui même. Je suis persuadé parce que c'est dans la volonté de Dieu. Dieu ne veut pas que ses paroles reviennent à lui tant qu'il n'a pas accompli sa volonté, son but, le dessein de Dieu aujourd'hui dans la vie de ceux qui viennent ici. Peut-être nous n'avons même pas le courage de lever les yeux. Mais je te supplie, pour ceux qui ont besoin d'être repris, oh que ta parole les reprenne et qu'ils ne rejettent pas comme le Saül, celui qui rejette Dieu. Dieu l'a rejeté. Oh notre Dieu, sauve. Tu es venu non pas pour juger, tu es venu pour sauver. Et fais-le ce matin. Peut-être il y en a ceux qui, en tant qu'enfants de Dieu déjà, dans ça, la désobéissance flagrante, et leur conscience les pique, leur fait mal, les trouble, et perdent la joie du salut, dans l'angoisse, dans les peines, dans les manques de sommeil. Oh Seigneur, qui viennent à toi en tant qu'enfant, demander pardon et abandonner de tels péchés, et tu le restaures dans cette joie, dans la communion avec le Père Céleste. Fais-le à l'instant, Seigneur, et qu'il puisse venir à toi une conscience purifiée, la joie du Saint-Esprit restaurée en eux. C'est eux plutôt qui sont restaurés dans cette joie. Je prie, Seigneur, que nous puissions prendre une décision, un engagement maintenant. Tu as montré dans ta parole que tu ne veux pas, en échange pour cacher nos désobéissances, de faire des actes religieux pour nous cacher derrière. Non, non, tu cherches le cœur. Tu veux le cœur et l'obéissance. Mais l'obéissance, c'est écouter Dieu et mettre en pratique ce que Dieu dit dans sa parole. Fais-le, Seigneur, je ne peux pas le faire. Mais toi, tu le feras. Et que nous sortions ici, une autre personne comme Moïse, quand il a rencontré Dieu sur la montagne, quand le peuple le voyait descendre, ils étaient impressionnés parce que son visage rayonnait. Il n'est plus le même. Fais cela, Seigneur, aujourd'hui. Je te supplie dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à vous lever et à chanter le cantique tel que je suis. 250 ? 243. Je vous invite à vous lever le 243. Et venez comme quelqu'un qui est dépouillé dans ce cantique. Il n'a rien pour sa propre justice de venir devant Dieu. Je viens avec ma justice. Vous venez sans rien, dépouillé de tout. Nu. Et c'est de tel état d'esprit que Dieu veut pour que nous puissions venir à lui et il vienne nous sauver.